Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, j'ai 44 ans et je me suis converti au Seigneur. Je me suis converti environ 5 mois de ça. Donc c'est quelque chose qu'on m'a demandé de raconter et que je fais avec un grand plaisir parce que j'aimerais raconter mon cheminement et comment j'en suis. Comment j'en suis arrivé à me tourner vers le Seigneur qui a agi dans ma vie, qui est en train d'agir aussi de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours à travers la prière, la parole et les expériences de vie. Donc j'aimerais vous faire partager un peu mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Donc on va commencer par le début. Donc voilà, j'ai 44 ans, j'ai grandi à Lyon. Mon enfance s'est plutôt bien passée. Je suis fils unique et mes parents sont, on est d'une famille ouvrière modeste. Et j'ai grandi dans un quartier populaire à Lyon où, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, bon, je me posais pas trop de questions. Quand on est jeune, on vit un peu sa vie comme ça, on joue au foot sur la place du quartier. Avec les copains, on fait deux, trois bêtises, mais rien de bien méchant. Jusqu'au jour de 1983, où mes parents ont pris la décision de déménager de Lyon, et on est parti en Ardèche. Donc en 83, je devais avoir 15 ans à peine, et c'était début 83, où là, ça a été une déchirure dans ma vie, le fait de déménager, de quitter Lyon. Ça a été très très difficile pour moi de me réintégrer, de m'intégrer dans ce village où on a été, dans l'Ardèche. Et ma rébellion a commencé à cet âge-là, où j'ai eu beaucoup beaucoup de conflits avec mes parents, notamment avec mon père, qui lui commençait à prendre une voie plus spirituelle, disons qu'ils sont convertis depuis longtemps. Mais mon père a décidé à cette époque de faire des études de théologie pour devenir pasteur. Donc à cette époque, il tenait une auto-école. Il a fait ses études de théologie. Donc de ses absences aussi assez répétées et puis de ses soucis personnels. Disons que j'ai été pas livré à moi-même, mais il a eu du mal à s'occuper de moi parce que j'étais déjà très turbulent et je travaillais pas beaucoup à l'école. J'ai été viré plusieurs fois de plusieurs écoles là-bas. J'ai même été chez les bonnes sœurs, mais j'étais tellement insupportable que j'ai été viré de partout et puis je traînais plutôt dans les bars. Je traînais plutôt dans les bars, j'ai commencé à boire de l'alcool assez jeune. Et par la même occasion, j'ai commencé à fumer du haschich assez jeune. C'est-à-dire qu'à 15 ans, déjà, bon, je fumais beaucoup de cigarettes et de haschich, et je prenais quand même pas mal d'alcool aussi. Donc, la période que j'ai passée en Ardèche, les quelques années que j'ai passées en Ardèche, ont été des années vraiment très très tumultueuses. Beaucoup de violence, beaucoup de choses pas très claires dans le milieu de la nuit. Il y avait une boîte de nuit à côté de chez mes parents où je faisais le mur pour aller en boîte de nuit, où j'ai connu un milieu un peu le milieu de la nuit, quoi. C'est avec tous les vices que ça comporte. Donc après ces quelques années, je suis parti à l'armée parce qu'on a devancé l'appel sous les conseils d'un commandant de gendarmerie qui joue au tennis avec mon père. Et ils se sont dit que c'était plutôt une bonne idée parce que je faisais tellement de bêtises entre mes vols de voiture, mes accidents de voiture, sous emprise de l'alcool et toutes les bêtises que je pouvais faire à côté. Si je continuais comme ça, donc c'est sûr que j'allais tout droit vers la prison. Donc il valait mieux que je devance l'appel. Donc en début 87, je suis parti à l'armée dans les chasseurs alpins. Cette année d'armée, au lieu d'être bénéfique dans le sens où ça aurait dû m'apporter de la maturité, ça a fait tout le contraire parce que J'ai fait les pires bêtises pendant un an d'armée. Je me suis retrouvé, comme on dit, qui se ressemble s'assemble, et je me suis retrouvé avec des gars très très peu recommandables à l'armée, où on a commencé tout un tas de trafic de drogue, d'armes aussi. On sortait la nuit pour cambrioler des maisons, des voitures, pour revendre. C'était une vraie petite mafia, quoi. On faisait du racket au sein même de la caserne. Donc pendant un an, ça m'a mis le pied à l'étrier dans mon cheminement un peu de petit délinquant, je vais dire ça comme ça. Ensuite, bon, je suis sorti de l'armée, je me suis cherché un moment, je ne savais pas trop quoi faire, je suis retourné à Lyon, et malheureusement à Lyon, je suis retombé sur des connaissances d'école, des familles nombreuses, des familles d'émigrés nombreuses. Qui à cette époque-là avait la mainmise sur Lyon, dans le sens où on peut même dire que c'était la mafia de Lyon, hein. Donc c'est des grandes familles de 10, 11 frères, et moi ayant grandi avec ces personnes-là, quand on s'est retrouvés, j'ai tout de suite eu plus de facilité qu'un autre à me lancer dans tout trafic toutes sortes. Parce que eux avaient le pignon sur rue, et on pouvait m'avancer tout ce qui était drogue, héroïne, cocaïne, haschich, armes, toutes sortes de trafics. On m'avançait ces marchandises pour que je puisse les revendre pour me faire de l'argent. Donc c'est à cette époque-là que j'ai connu l'héroïne et que j'ai commencé à la prendre par voie intraveineuse. Donc je me suis fait mon premier fixe d'héroïne. À 22 ans à peu près. Et tout le reste de ma vie, ça m'a suivi par intermittence. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la drogue, bon, il y a des mois où il y a des années où vous êtes plus tranquille que d'autres, et puis il y a des années qui sont un peu plus catastrophiques, ça dépend un peu de votre situation. Mais comme j'avais mis le pied dedans, donc ça m'a suivi, ben maintenant je peux dire que ça m'a suivi pendant une trentaine d'années, quoi, à l'heure où je vous parle. Donc, cette période sur Lyon, j'ai passé 3-4 ans on va dire, dans la rue, parce que j'habitais je squattais plutôt chez des amis, où je m'adonnais à toutes sortes de trafics, beaucoup de problèmes avec la police aussi. Malgré tout, à cette époque-là, Dieu m'avait quand même bien me protégeait, comme il a toujours fait, parce que j'ai toujours évité la prison. J'ai eu beaucoup enfin beaucoup, oui, des gardes à vue, des problèmes. Judiciaire, donc des passages au tribunal pour des petits délits de vol de moto, des choses comme ça, mais jamais de lourdes condamnations, ce qui n'est pas le cas de tout mon entourage, que j'ai perdu beaucoup de copains, soit par le suicide, soit avec des lourdes peines de prison, des gens d'ailleurs que j'ai jamais revus. Et après ces quelques années très tumultueuses, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Nathalie, qui a été l'amour de ma vie et qui m'a sauvé un peu de la drogue. Là, on est resté ensemble, je crois, 5 ou 6 ans, et qui m'a sauvé vraiment de la drogue, parce qu'elle m'a offert un amour, et c'est tout. Elle a compris, elle a eu une psychologie qu'il fallait pour me comprendre. Elle avait compris que je souffrais de quelque chose, et que c'est pour ça que je me shootais à l'héroïne, et que je cherchais toujours les sensations fortes, et je m'auto-détruisais. Elle a eu cet amour-là elle m'a soutenu pendant 6 ans. Mais pendant 6 ans, j'ai eu des hauts et des bas, des rechutes, et beaucoup, beaucoup d'alcool aussi, parce que comme j'avais fait une croix un peu sur la drogue, il a fallu que je compense, et j'ai compensé avec l'alcool. Donc au bout de 6 ans, je l'ai quittée avant qu'elle le fasse, parce que ça n'allait plus, et je suis retourné à Lyon. Où j'ai essayé de me prendre en main, donc j'ai fait de la sécurité événementielle. J'aimais ce côté où on part dans aux quatre coins de la France pour faire des concerts, parce que je travaillais pour plusieurs sociétés de sécurité. Et l'événementiel m'apportait le côté un peu rock'n'roll de la vie, parce que c'est un milieu où ça bouge beaucoup, on voit beaucoup de gens. Donc en parallèle, j'avais. Commencé à pratiquer un peu les arts martiaux, mais c'était toujours entrecoupé de prises de drogue, de périodes de répit. Et il y a eu plusieurs blessures aussi dans le sport qui m'ont amené à l'hôpital pour un temps, où là j'ai recommencé à me droguer. Et ça a duré comme ça quelques années, jusqu'au jour de 2005 où je suis parti en Afrique. Je devais travailler pour un chef d'entreprise là, qui a une entreprise de travaux publics et qui avait besoin d'un gars comme moi pour soi-disant superviser des travaux au Sénégal. Donc je suis parti au Sénégal, mais très vite je me suis rendu compte que son projet ne tenait pas debout. Et je me suis retrouvé au Sénégal comme ça, sans argent. Je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas rentrer en France. Je ne pouvais pas demander d'argent à qui que ce soit. Donc je me suis débrouillé là-bas. Et le hasard a voulu que je rencontre deux Parisiens qui m'ont confié la gérance d'une boîte de nuit, d'un nightclub. Et ça a duré 3 ans. Voilà. Pendant 3 ans, j'ai géré cette boîte de nuit. La première année, bon, tout allait bien parce que je faisais quand même pas mal de sport. Tous les jours sur la plage, je courais et je m'entretenais, donc tout allait bien. Et puis ensuite, il y a eu la cocaïne, donc des clients qui ont commencé à m'apporter de la cocaïne en boîte, enfin dans la boîte de nuit. Et on a commencé à faire des échanges comme ça, contre des consommations. Et puis ma consommation de cocaïne a augmenté de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, jusqu'à ce que je sois vraiment incontrôlable. Et au bout de 3 ans, donc j'étais incapable de gérer quoi que ce soit, parce que je pensais qu'à la drogue et qu'aux filles, à la drogue, à l'alcool. Et j'ai là-bas aussi traîné dans, enfin trempé plutôt dans des trafics un peu louches, des trafics en tout genre. Donc je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais voilà, j'ai fait des choses qui sont pas très recommandables dans ce pays là-bas au Sénégal. Au bout de 3 ans, évidemment, le chemin que j'avais pris ne pouvait pas me mener ailleurs qu'au bord du précipice. Hein. Donc y a un ami, il y a deux amis, bah, à vrai dire, qui m'ont aidé à rentrer en France. Donc il y a un ami qui m'a envoyé un peu d'argent et un autre ami qui m'a envoyé de l'argent pour que je me paye un billet d'avion. Et je suis rentré en France une main devant, une main derrière, comme on dit, hein, c'est-à-dire j'avais tout vendu, quoi, ma télé, mes habits, enfin tout ça. Je suis rentré, j'avais pratiquement plus d'argent. Et cet ami-là m'a logé chez lui un certain temps, pendant 2 ou 3 mois, je crois. Il m'a logé chez lui, il m'a ramassé plutôt parce que j'étais complètement détruit. Et malgré sa bonté, malgré sa gentillesse, je suis retombé encore dans la drogue à Lyon. Et au bout de 3 mois, j'étais vraiment au bord du suicide parce que j'avais l'impression à cet âge-là d'avoir fait le tour de tout et de ne plus attendre grand-chose de la vie. Donc je voulais en finir. Et mon père m'a récupéré à temps, quoi. Un jour, on s'est appelé, on s'est téléphoné et puis il m'a dit, je viens te chercher. Tu vas venir à la campagne là, à Thiers, en Auvergne. Il faut que tu te reconstruises. Donc il est venu me chercher. Là, ça allait un peu mieux. Pendant 8 mois, j'ai travaillé, j'ai refait un peu de sport, je me suis entretenu, j'ai essayé de boire un peu moins, j'arrêtais de prendre des drogues dures. Je continuais à fumer du haschich parce que j'ai fumé toute ma vie, mais les drogues dures, j'avais plus ou moins arrêté. Et c'est ce qui m'a permis de travailler en intérim et puis de mettre suffisamment d'argent de côté pour partir en Asie du Sud-Est. Donc, je crois que c'était en 2008, je suis reparti encore 4 mois en Asie du Sud-Est pour essayer de me trouver une situation. Et là-bas, j'ai replongé encore dans des trafics d'opium et de haschich, enfin d'herbe. J'ai commencé à vendre, je m'étais construit un petit réseau sur une île où je commençais à vendre de la drogue aux touristes. Et là, j'ai compris que de n'importe où que j'aille, j'avais un peu ça dans la peau, quoi. C'est quelque chose qui me suivrait de partout. Donc j'ai eu le choix de rester en Thaïlande toute ma vie sur une île ou de rentrer. Et quand j'ai pensé à mes parents, je me suis dit qu'il fallait que je rentre. Parce que autrement je reverrai plus ma mère. Donc j'ai pris la décision de rentrer au bout de 4 mois. Je suis retourné à Lyon, encore une fois. Vous voyez, j'ai fait un peu ça toute ma vie parce que la dernière fois j'ai compté, j'ai changé 18 fois d'adresse. Donc c'est pour vous dire un peu, J'avais toujours le sac à la main, quoi. J'ai changé 18 fois d'adresse. Donc je suis revenu d'Asie du Sud-Est, pas forcément détruit, mais sans rien, les mains dans les poches. Je suis retourné à Lyon chez un ami qui m'a logé. C'est-à-dire qu'on moi je payais aussi la moitié des factures et du loyer. Donc je trouvais des petits boulots pour m'en sortir et j'ai recommencé évidemment à trafiquer, mais à travailler aussi un petit peu. Et ce travail-là, comme j'étais quand même assez sérieux dans mon travail, malgré le fait que je me droguais, j'étais quand même assez sérieux dans mon travail. J'avais cette volonté de m'en sortir financièrement surtout. Le patron était assez content de moi et du coup il m'a proposé de venir à Rouen parce qu'il avait acheté une usine. Donc je suis monté en Haute-Normandie et pendant un an j'ai travaillé et j'ai arrêté de prendre de la drogue. Pendant un an j'ai pris un médicament de substitution à l'héroïne qui s'appelle le Subutex. Pendant un an j'ai usé et abusé de cette buprémorphine qui est très dangereuse à la santé. Mais ça me permettait de tenir le coup au travail. Donc j'ai fait ça pendant quelques temps, jusqu'à ce que je me fasse licencier parce que l'usine a finalement coulé. Donc je me suis retrouvé en licenciement économique. Je suis retourné donc en Auvergne parce que pour le coup, j'ai oublié de vous dire, mais avant, en 2005, j'avais plus le permis de conduire. Là, pour le coup, ma nana m'avait laissé tomber. J'ai perdu mon appartement. J'ai été licencié, donc au chômage. Et c'est complètement détruit que je suis retourné chez mes parents. Je suis retourné chez mes parents, mais complètement détruit. Malgré ma décision de décrocher du Subutex. Parce que ça, j'en avais vraiment marre. Donc, j'ai d'ailleurs écrit un petit livre là-dessus. J'ai décroché de toutes ces substances-là qui étaient trop dangereuses à la santé. Donc, j'ai laissé tomber ça. Et je suis revenu chez mes parents, complètement détruit. Et il a fallu quelques temps pour que je puisse continuer le combat, c'est-à-dire repasser le permis. J'ai repratiqué un peu de musculation. Et j'ai même créé ma petite entreprise en tant qu'auto-entrepreneur dans le terrassement parce que j'étais conducteur d'engin auparavant. Je me suis reconstruit et j'ai même retrouvé un appartement à quelques kilomètres de chez mes parents. Avec l'aide de mes parents, j'ai pu me racheter une voiture et remettre un peu les pieds sur terre. Voilà. Mais il manquait toujours quelque chose. J'avais presque accompli ce que, disons que j'avais été sauvé encore une fois in extremis de la mort certaine. Mais il manquait toujours quelque chose. Et c'est là que un jour j'ai sur la terrasse en parlant avec mes parents, comme je les entendais toujours parler de Dieu. Dans toutes les phrases, pratiquement, dans tous les propos, Dieu par-ci, Dieu par-là, un jour de révolte, j'en ai eu marre. Et je leur ai dit, écoutez, votre Dieu, là, j'en peux plus d'en entendre parler, parce que je sais même pas s'il existe. Donc, ce qu'on va faire, j'en ai tellement marre de vous entendre dire ça, que dimanche prochain, je vais aller à l'église où on m'a invité. Je vais aller dans cette église là où il y a un ami qui m'avait invité déjà une fois et je donne rendez-vous donc à ce Dieu là dont vous parlez tout le temps. Et s'il est là, donc il se passera quelque chose, mais s'il se passe rien, je ne veux plus jamais en entendre parler parce que ça fait 40 ans que vous me saoulez avec ces histoires et je ne veux plus en entendre parler. Donc mes parents m'ont dit d'accord, rendez-vous dimanche prochain donc. Hein. Et le dimanche qui a suivi, donc je suis parti avec cet ami à l'église où il m'avait déjà amené une fois. Il m'avait déjà amené une fois, mais il s'était rien passé de spécial. Mais là, cette fois-là, j'ai demandé quand même à ce qu'on prie pour moi. Et simplement, la chose que j'avais à faire, c'est de dire, Seigneur, j'en ai marre de ma vie jusqu'à maintenant, de ce que j'ai fait. Je veux plus continuer comme ça, donc je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. J'avais que ça à dire, hein, en fait. Hein. Mais il fallait que je le dise d'une manière assez sincère. Et comme j'étais complètement détruit, évidemment, j'ai été sincère. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, parce que j'en peux plus. Donc je veux plus continuer ma vie comme ça. Je veux te connaître et je veux savoir ce que tu peux faire dans ma vie. Donc le pasteur et cet ami ont prié pour moi. Et sur le chemin du retour, et sur l'autoroute, évidemment, le Seigneur a commencé à agir en moi. Donc je ne savais pas, je ne pouvais pas mettre de mots dessus. C'est des sensations que j'avais jamais connues. C'est quelque chose d'assez étrange qui vous travaille dans les tripes, dans votre cerveau, comme si quelqu'un vous parle ou que vous avez quelqu'un à l'intérieur de vous. C'est assez bizarre. Et j'avais pas l'habitude de ça. Et j'ai beaucoup pleuré. Je me souviens avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré sans trop savoir pourquoi. Et je me suis rendu compte que quelque chose était en train de se passer, mais j'avais du mal à mettre des mots dessus. Donc de ce fait, pendant une dizaine de jours, on n'en a pas parlé avec mes parents. Ils m'ont pas posé de questions et moi je leur ai rien dit du tout là-dessus. Et le Seigneur a fait son chemin petit à petit, tranquillement, tout doucement. Il a fait son chemin en moi, jusqu'au jour où dans ma voiture, j'ai senti une présence et le Seigneur m'a parlé à travers une chanson. Parce que le Seigneur vous parlera toujours là où vous pouvez entendre, où vous pouvez écouter. Donc comme on est tous différents, moi je suis un mélomane, j'ai toujours aimé la musique et il m'a parlé à travers une chanson. Et c'est là que j'ai compris que le Dieu qui existait n'était pas du tout le Dieu que j'imaginais, donc lointain, inaccessible. C'était un Dieu d'amour et qu'il était en train de me faire une déclaration d'amour, quoi, qu'il était en train de me dire que ça faisait longtemps qu'il m'aimait et qu'il attendait, ça fait longtemps qu'il m'attendait et qu'il attendait que je fasse cette démarche de lui ouvrir, parce que Dieu ne vous force en rien. Il attend juste que ce soit vous, il vous laisse le libre arbitre. Donc il attend juste que vous lui demandiez et il répondra. Et peut-être pas dans le temps, parce qu'on n'a pas la même notion de temps avec Jésus, avec Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous demandez, il répond. Et moi, il m'a répondu. Donc cette fois-là, il m'a fait cette déclaration d'amour où je me souviens avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré aussi. Quelques temps après, je suis monté à un séminaire à Paris de 3 jours pour une convention chrétienne où on a beaucoup prié et il y avait une ambiance assez particulière où on a tous été bénis, c'était vraiment fantastique. Et à mon retour de cette convention, pour passer le cran au-dessus, un jour dans ma voiture, vous allez me dire, oui, tout se passe en voiture, bah oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc là, on est passé la vitesse supérieure. Quand je dis que j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est que à travers une chanson, les larmes ont commencé à me monter aux yeux et quelque chose m'est tombé dessus, m'a envahi. Je le sentais dans mon sternum, j'avais des frissons, j'ai commencé à trembler et j'ai reçu des flots, des vagues et des flots continus d'amour. Donc je sais pas si c'est difficile à comprendre, c'est difficile à dire aussi, c'est difficile à exprimer, mais moi, voilà, ce que j'ai ressenti, c'est des flots continus d'amour, d'un amour immense, qui m'ont complètement déstabilisé, donc j'ai été obligé de m'arrêter, parce que j'étais incapable de conduire, pris de panique, mais c'était une bonne panique, hein, j'avais pas peur, au contraire, hein, j'étais dans un état un peu second, un peu en transe, où j'ai senti que Dieu pouvait m'enlever la vie à cet instant aussi, s'il voulait, mais qu'il était en train de me remplir de son amour, et que j'avais qu'à laisser faire parce que c'était tellement bon aussi d'un côté. Donc et une fois que je suis redescendu un peu, j'ai appelé ma mère pour lui raconter l'histoire et j'ai appelé mon pasteur aussi pour lui dire qu'il m'était arrivé quelque chose de fantastique. Mais comme il restait quelques kilomètres à faire, j'ai repris ma voiture pour arriver à rentrer chez moi. Et là, de nouveau, sans le chercher, et le Saint-Esprit m'est retombé dessus encore une fois. Où là, dans un songe, j'ai vu la puissance de Dieu parce qu'il me l'a montré, j'ai vu le ciel s'ouvrir avec une grande clarté comme l'explosion de la champignon atomique. Et Dieu, à l'intérieur de moi, me montrait sa puissance. Et là, j'ai compris que c'était le Dieu qui avait créé l'univers, qui avait créé l'homme, qui, comme il nous a créé, rien n'est impossible à lui. Et que et qu'il peut tout faire en nous ou à l'extérieur de nous. C'est celui qui a créé la matière, c'est celui qui a créé l'homme, la pensée, notre cœur, notre amour. Et à travers ce songe que j'ai eu là, à travers cette lumière là de champignon atomique, j'ai compris sa puissance. Il me montrait sa puissance. Donc ça a été assez difficile à digérer parce que c'est des choses qu'on ne vit pas. Même à travers la drogue, j'ai fait beaucoup d'expériences avec la drogue où je me voyais partir de mon corps ou faire des expériences un peu comme ça. C'est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes avec la drogue. Mais là, en étant clair, en ayant bu que de l'eau, ce qui m'est arrivé, c'est quand même c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, j'ai commencé à comprendre que Dieu n'était pas un Dieu inaccessible et ce n'était pas qu'un mythe. Tous ces gens dans le monde entier qui parlent de Jésus, qu'il est mort pour nos péchés et que Dieu est un Dieu tout-puissant et unique. Et c'est que j'ai commencé à comprendre que c'était la vérité, que c'était réel, qu'on n'était pas dans une affabulation. Donc de plus en plus, je me suis mis à prier, à essayer à ce que Dieu m'enseigne sa parole. Parce que être chrétien, c'est aussi être attentif aux signes et être enseigné par la parole de Dieu. Dieu nous a laissé la Bible et c'est l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous guider dans notre vie de tous les jours. Et la Bible est la parole de Dieu, est la vérité. Donc il faut bien comprendre que à travers le Saint-Esprit et la mort du Christ pour nos péchés, il n'y a que par eux qu'on peut accéder, que nos prières peuvent arriver au Père Tout-Puissant. Et que on est ses enfants. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il nous a fait par amour. On est ses enfants qui nous laissent le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Mais si on choisit son côté, son camp, qu'on a soif de sa parole qui est infinie, les réponses à toutes nos douleurs, tous les conflits familiaux, la drogue, la violence, les gens qui ont des maladies incurables, les gens qui sortent de prison, les gens qui ont vécu dans la misère, tout le pansement de leur vie se trouve dans la Bible et dans la parole de Dieu. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez compris que Jésus est mort pour vos péchés. Vous avez compris ça et que vous lui donnez votre vie et que vous insistez dans la prière, vous posez vos problèmes à Dieu parce que vous posez tout au pied de la croix, tous vos soucis, tout votre mal-être, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer en tant qu'homme libre. Si vous prenez Jésus comme partenaire, votre vie va être transformée, va changer. Donc, je tenais à vous rendre témoignage parce que je suis un garçon parmi tant d'autres mais qui arrive de loin. Je suis passé plusieurs fois à travers la mort, je suis un miraculé, et vraiment j'avais un vide en moi, j'avais un vide, la drogue, l'alcool, les filles, la nuit m'ont toujours laissé un goût amer dans la bouche, et c'est parce que c'est éphémère, c'est pas la vérité, alors que Jésus, plus je m'intéresse à Jésus, plus je m'intéresse à la parole, plus je prie, plus il se passe des choses fantastiques dans ma vie, c'est de la magie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez plus vivre jamais de la même manière. Vous allez vivre dans un monde magique. Tous vos souhaits, quand ils sont justes et justifiés, quand ils sont demandés avec humilité et sincérité au Père, vous aurez toujours une réponse. C'est ça qui est fantastique avec Dieu. Dieu est quand tu donnes une promesse, il tient sa parole. C'est pas comme le monde de Mammon, où vous savez que Satan est prince sur terre et qu'il ne fait que nous manipuler pour nous faire du mal. Et Dieu, c'est tout le contraire. Dieu, tout ce qu'il dit, ça peut paraître simple, c'est sans fioritures, c'est sans paillettes, sans rien, mais quand il a donné sa parole, il tient sa promesse. Donc si vous avez juste le courage, l'humilité de vous mettre à genoux, tout seul ou avec quelqu'un, ou comme vous voulez, peu importe, que ce soit dans les bois, dans une cave, dans un ascenseur, dans un HLM, on s'en fout de ça. Si vous arrivez à trouver le courage au fond de vous humilier devant le Père, de vous mettre à genoux, de croiser vos mains, de fermer vos yeux et de dire simplement avec votre bouche, avec le plus de sincérité possible, de dire cette phrase simple: Père, Jésus, je te donne ma vie, je me place sous le sang du Christ parce que je ne veux plus vivre la vie que j'ai vécue avant, je remets tout au pied de la croix, entre tes mains, Jésus, j'ai des questions à te poser, je demande des réponses, je demande que tu guides ma vie et que tu me fasses des signes. Pour que tu me prouves que tu existes, Dieu vous répondra. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Il suffit de rester attentif aux signes que le Seigneur peut vous donner. Ça peut être à travers un courrier, à travers un film, à travers une chanson, à travers un ami, à travers n'importe quoi. Quand vous êtes connecté avec Dieu, vous restez attentif, vous regardez autour de vous, vous restez tranquille, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. Il y a même des gens, moi, que je connais, que Dieu leur a directement parlé à l'oreille. Vous voyez? Il y a des gens qui ont eu des visions. Il y a des gens qui ont eu des rêves. Moi, ça se passe plutôt dans les rêves, quand je pose des questions au Seigneur. Et quelques temps après, en général une semaine après, il me parle à travers des prédications ou des passages de la Bible. Et tout ce que vous avez demandé, c'est très très ciblé. Il vous donne des réponses très précises. Donc restez attentif. Restez toujours dans la prière. Restez toujours dans la prière, le plus sincèrement, le plus humblement possible. Sachez que vous avez la chance que Jésus, on a la chance que Jésus soit mort pour nos péchés. Commencez à vous renseigner là-dessus. Ne balayez pas d'un revers de bras des choses que vous ne connaissez pas. Si on vous parle de Jésus, du Père Tout-Puissant, de la création, de la Bible, intéressez-vous à ça. Intéressez-vous, cherchez des réponses. Et là, vous allez voir que les réponses, vous allez en trouver. Vous allez en trouver. Après, libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Mais je ne connais pas de gens qui ont goûté à ça et qui n'ont pas voulu fonctionner avec ça par la suite. Moi, j'en connais pas. Il y en a qui le font, mais c'est peut-être pour mieux y revenir plus tard. Parce que de toute façon, quand vous avez goûté à ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tout ce que je vous souhaite, c'est à vous qui m'entendez ou qui me lisez, c'est de faire les mêmes expériences que j'ai fait moi qui étais perdu et qui pensais pas qu'il y ait quelque chose qui puisse donner un sens à ma vie. J'ai souffert des années et des années à cause de ça. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie s'est transformée. Et de nouveau, je peux voir un avenir et je peux voir toutes les choses sur lesquelles j'avais fait une croix. Donc, maintenant, j'ai envie de me battre, et puis je sais que je suis soutenu, donc tout ce que vous allez entreprendre va être couronné de succès. Donc Dieu va vous enlever la maladie, Dieu va vous donner le courage de continuer, de progresser dans votre travail, parce que vous êtes ses enfants, et Dieu ne veut pas que vous soyez un petit chrétien, un petit qui gagne rien, ou qui va pas dans sa vie, ou qui est diminué. Dieu aime les enfants forts, qui progressent dans leur travail, qui progressent dans leurs finances, qui progressent dans la famille, qui progressent à tous ces niveaux, qui soient heureux, pour qu'ils soient tellement heureux que ça se voit et que les gens viennent vers eux naturellement pour leur poser des questions et leur dire « Mais comment tu fais pour être aussi heureux dans le monde où on vit ?» Et là, on va vous donner des réponses très précises. On est heureux, on aime de nouveau la vie parce qu'on a donné notre vie à Jésus et qu'on s'est placé sous son sang. Et je vais arrêter là parce que les larmes me montent aux yeux et que je vous souhaite tout le bonheur du monde et que Dieu vous bénisse. Amen.